Bonsoir à tous, bonsoir Gérard.
Bonsoir André.
C'est Attaque. Eh oui, c'est Attaque 18, le groupe Attaque de la région de Bourges, qui vous parle tous les 4e vendredis du mois sur Radio Résonance 96.9.
Et qu'est-ce qu'on dit chez vous ?
Qu'un autre monde est possible. Un monde juste, solidaire, durable et démocratique. Parfaitement.
Alors, cette émission, Covid oblige, sera, comme la précédente, un petit peu différente. Ni Jeanne-Marie, ni Louis-Claude ne sont dans notre studio. Nous les saluons au passage.
Nous aborderons d'abord quelques points d'actualité avant la chronique de notre ami Louis-Claude.
Puis nous écouterons l'entretien que nous a accordé Sylvain Miossec, maître de conférence, enseignant-chercheur à l'IUT de Bourges, secrétaire départemental de Sud-Éducation, qui évoquera la situation de l'enseignement supérieur et de la recherche, au moins sous quelques-uns de ses aspects.
Enfin, nous terminerons avec le livre du mois, le tout accompagné de chansons.
Alors André, qu'as-tu retenu dans l'actualité de ce mois ?
Eh bien Gérard, les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Ce titre du dernier film d'Emmanuel Mouret s'applique très bien à ceux qui nous gouvernent. En mai dernier, Emmanuel Macron souhaitait que le vaccin devienne un bien public mondial et l'Union européenne parlait d'un accès universel, rapide et équitable. Depuis, alors que la pénurie de vaccins fait rage, l'Afrique du Sud et le Nigeria qui disposent d'usines capables de produire des vaccins, ont demandé l'application de la clause du droit international, dite de licence obligatoire, permettant en cas d'urgence de suspendre temporairement la propriété intellectuelle et obliger les labos propriétaires d'un brevet à donner à d'autres la possibilité de fabriquer ce vaccin. Refus des États-Unis et de l'Union européenne. Les Africains attendront. Au prix de combien de morts supplémentaires, ça ? D'autre part, on sait que Sanofi a pris un an de retard sur la mise au point du vaccin. Depuis des années, les chercheurs, les syndicats ne cessaient de protester contre la réduction de la recherche et la fermeture de laboratoires, le dernier en date étant celui de Strasbourg. Et c'est pas fini, le groupe prévoit la suppression de 1700 postes, dont 400 dans la recherche. Alors il y en a qui disent « mais enfin ils sont fous de faire ça en pleine pandémie ». Non, non, pas du tout, ils sont pas fous du tout. Il y a une logique derrière ça. Sanofi se recentre simplement vers la production des médicaments les plus rentables. Et ça marche. En 2020, le bénéfice net de Sanofi a progressé de 340%. Oui, 340. Et elle a versé 4 milliards d'euros à ses actionnaires. Merci pour eux et tant pis pour l'intérêt général. De tout cela, il ressort que les vaccins et les médicaments doivent devenir des biens communs de l'humanité. Un combat de plus à mener dans les prochaines années, car évidemment, ça ne viendra pas tout seul. Alors maintenant, Hercule. Ah, derrière ce nom du héros mythologique se cache un projet beaucoup moins sympathique. Le démantèlement d'EDF. Rappelons qu'EDF est déjà, depuis 2005, une société de droit privé, mais dont l'État est pour l'instant majoritaire. Il s'agit de la vendre à la découpe aux intérêts privés. L'État gardera les centrales nucléaires qui ne sont plus rentables et le seront de moins en moins pour brader les énergies renouvelables, les centrales hydroélectriques et le réseau de transport et de distribution. On nationalise les pertes et on privatise les profits. Laisser un secteur économique aussi vital au privé, c'est-à-dire à la logique du profit maximum, on voit ce que ça donne chez Sanofi. La fin programmée du tarif réglementé auquel la grande majorité des usagers reste attachée va les livrer à une multitude de propositions toutes plus alambiquées et opaques les unes que les autres. Quant à la concurrence, qui existe déjà puisque EDF doit vendre le quart de sa production à ses concurrents, qui la revendent aux consommateurs qui se sont laissés séduire, elle était censée faire abaisser les prix. Résultat, plus 37% en 10 ans, c'est-à-dire à peu près 4 fois l'inflation. Mais il y a plus grave encore. Privatiser les énergies renouvelables, c'est renoncer à une politique publique volontariste dans un secteur qu'il faut développer le plus vite possible à cause du réchauffement climatique. Privatiser le réseau de transport et de distribution va encore compliquer les choses, car son adaptation est cruciale pour réussir cette transition vers les renouvelables. Sans compter que privatiser ces secteurs les met à la merci d'une prise de contrôle par des intérêts étrangers. Enfin, le 23 avril, Bruno Le Maire avait déclaré que les entreprises ayant leur siège ou des filiales dans les paradis fiscaux ne pourraient pas avoir droit à des aides publiques. Pourtant, les révélations d'Openlux ont montré que 29 des 37 groupes du CAC 40 ayant leur siège en France étaient présents au Luxembourg par le biais de 166 filiales. Ce n'a pas empêché ces entreprises de bénéficier des aides et du plan de soutien, car le Luxembourg n'est pas un paradis fiscal pour la France et l'Union européenne. Pas plus d'ailleurs que la cité de Londres, les Pays-Bas ou Monaco. Il n'y a pas de paradis fiscaux en Europe.
Merci André. Eh bien, écoutons maintenant la chronique de Louis-Claude.
Vous avez entendu des journalistes et d'éminents spécialistes du Moyen-Orient s'émerveiller de l'efficacité israélienne dans le domaine de la vaccination anti-Covid. Eh bien, ces gens-là mentent, bien que ce qu'ils disent soit vrai. Israël est effectivement efficace, mais ils mentent par omission, en oubliant de nous informer sur la situation qu'Israël fait à la Cisjordanie et aux Palestiniens. La Convention de Genève fait obligation à un État occupant de prendre en charge la santé des habitants sous occupation. Pourtant, le gouvernement israélien se paye le luxe du chantage suivant. Refus de laisser entrer 2000 doses de vaccins destinées aux soignants palestiniens de Gaza si le Hamas ne libère pas deux prisonniers israéliens. Deux remarques. Gaza, c'est une population de plus de 2 millions d'habitants qui vit dans une prison à ciel ouvert avec une densité probablement record du monde, environ 50 fois celle de la France. Et d'autre part, Israël détient des centaines de Palestiniens dans ses prisons, sans raison connue, sans procès, sans délai, et ne semble pas envisager de les libérer. Pour le gouvernement d'Israël, tout habitant d'Israël, de la Méditerranée au Jourdain, ne peut qu'être juif. Ceci exclut tout simplement des droits essentiels en démocratie les Arabes qui vivent dans le pays, qui sont majoritairement musulmans, mais également chrétiens, bouddhistes ou athées, et rend caduque, par ailleurs, tout espoir de création d'un État palestinien. Mais cette loi définissant Israël comme État juif s'inscrit dans une continuité. Dans un premier temps a été conduite la recherche d'une identité juive historique, issue de la migration et de l'errance de tout un peuple. Je vous renvoie à la Bible. Cette recherche ayant fait long feu, la tentation se répand d'en appeler à la génétique pour montrer l'unicité ethnique du peuple juif. Cette nouvelle orientation politique n'a aucun fondement scientifique et n'a pas plus de chances d'aboutir que la précédente. Il est même probable que la génétique démontrera clairement l'ineptie d'une telle recherche. En fait, c'est une culture de la peur qui est entretenue par le gouvernement Netanyahou, qui conduit à l'enfermement du pays et à ses comportements, qui font fi des règlements internationaux et des engagements pris par ses responsables. Si l'on passe de l'autre côté du mur de séparation, qui se construit au mépris des frontières reconnues par une majorité des pays de l'ONU, on est en Cisjordanie. L'apartheid s'y caractérise de différentes manières, par l'omniprésence de l'armée israélienne et ses exactions permanentes, par l'organisation de la vie des Palestiniens sur le mode des Bantoustans, par l'organisation de leur circulation sur des routes séparant colons et Israéliens et palestiniens, par le contingentement de l'accès à l'électricité ou encore la limitation drastique de l'étendue de la zone de pêche de Gaza, par l'appropriation du plateau du Golan, par l'appropriation de l'eau au bénéfice quasi exclusif des colons. Tout ça sans oublier les bombardements récurrents sur Gaza, en particulier sur les hôpitaux, déjà en déficit de soignants, de médicaments, de prothèses pour appareiller les blessés par les balles des snipers israéliens. Autre argument souvent utilisé par les gouvernants israéliens, la Shoah. La Shoah a représenté un paroxysme du racisme et de la haine et ne doit évidemment pas être oubliée, encore moins niée. Mais son évocation ne peut justifier 70 ans plus tard tous les comportements des gouvernements successifs d'Israël, ni excuser l'indifférence européenne au sort des Palestiniens, ni suggérer que les partisans de BDS, boycott des investissements en sanctions, seraient antisémites, voire nazis. Ce discours relève d'une démagogie victimaire inacceptable, il est par ailleurs également injurieux à l'égard des militants des droits de l'homme. En psychologie sociale, on analyse le conflit entre groupes sociaux comme un écart inacceptable entre leur niveau de situation. Quelques exemples, patrons salariés, riches pauvres, gilets jaunes élites, etc. Le niveau de tension décroît si l'écart s'amenuise. Or, seuls les plus élevés dans la hiérarchie qui motivent le conflit ont pouvoir de réduire cet écart, soit en abaissant leur situation, soit en élevant celle des plus faibles. Si l'on applique ce principe au conflit israélo-palestinien, ce sont les Israéliens qui ont pouvoir de réduire la tension en améliorant quantitativement et qualitativement la situation des Palestiniens, en cessant de promouvoir des lois discriminatoires et en cessant de verrouiller toute autonomie de la population palestinienne. Deux décisions de justice viennent de conforter une approche susceptible de réduire l'impunité des responsables israéliens à défaut de l'éliminer totalement. La Cour pénale internationale, la CPI, s'est déclarée compétente pour enquêter sur d'éventuels crimes de guerre commis par des responsables israéliens dans les territoires palestiniens. D'autre part, l'arrêt de la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, de juin 2020, consacre le droit de critiquer la politique d'un État au nom de la liberté d'expression. Il est bien question ici de la critique de la politique d'un État, en aucun cas de jugement de valeur sur une ethnie ou d'un quelconque essentialisme qui attribuerait a priori à un groupe social des comportements condamnables par principe. Dans ce cas, le racisme serait patent et devrait être condamné. Formons le vœu que toutes celles et tous ceux qui en sont victimes du racisme se liguent avec les militants antiracistes pour combattre ce fléau, cumul d'ignominie et de dangerosité.
Viens porter des quatrains, des proses, des vers et des couplets, chanter des refrains de ma cause, déchirer, découper, au-delà des règles et des clauses. Levons-nous pour parler, coincés en guerre et paix, c'est dans nos mains que sont les dés. On en a marre des guns et des bombes, que la force écrive la loi, reflète des ténèbres, des tombes. Sous l'aspect de la foi, poussière dans un champ d'écombre. On veut avoir le choix, car l'homme au couteau style d'entrée, la part du roi. Tout se passe dans le secret des coffres, des palaces, des salons, des us et des rites, des gosses. Sous de noirs plafonds, avec la lumière des torches, des bagues et des glaçons, des compagnies écrans, des fous à cran, des grands du monde sont de nos fantassins. Porte le blanc étendard, tes yeux imaginent la scène, tambour et fanfare, entrée dans Jérusalem. Dans un nuage de sable, sans armes, sans larmes, sous l'ombre de colombes innombrables, aucun parti dort sous notre bannière. Rien qu'à Salam, ni armée qui pose des barrières, ni roquettes qui frappent, le sacré ici dans chaque pierre. Cette ville est le cœur, Moïse, Jésus, Mohammed, enfin la paix en sa demeure. C'est une marche sur Jérusalem, portons-nous un plus à l'est. Une myriade de voix brise le silence et nos futurs s'allègent. Les sourires reprennent ces rues que la crainte et la peur balayent. Laisse mourir 2000 ans tachés de haine.
Mathelaye dans Jérusalem, dîna maak stoksin. Sijil zidz même le moksik rabbi ou le majisin. Il vit la jithin et tex, l'azahin et khamsin. Rouhi sin, dîna sennahem adnakas.
Pour l'autorité, tout ça n'en vaudra plus.
دار جيروزالم دينا غاك استقسين سيل زيك زمام المقصيك ربي وين ما تجيسين إن في ذا شي ثني الدكس العاصة كيني خمسين روحي سين إينا سن الهم مذنك
فيز Tu marches sur Jérusalem Le monde sera plus à l'aise Apportons d'amour et l'olivier n'appellera plus à l'aide Conflit pour l'autorité Tout ça n'en vaudra plus la peine Laisse mourir 2000 ans tachés de haine C'est une marche sur Jérusalem.
Vous écoutez Radio Résonance 96.9, c'est l'émission mensuelle d'Attaque 18. Et nous vous proposons maintenant l'entretien que nous a accordé Sylvain Miossec, enseignant-chercheur à l'IUT et secrétaire départemental du syndicat Sud Éducation.
Sylvain Miossec, bonjour.
Bonjour.
Donc tu es ingénieur, tu as un doctorat, tu es maître de conférences à l'IUT, enseignant-chercheur donc, qui dépend de l'Université d'Orléans. Tu es également secrétaire départemental de Sud Éducation et élu au comité technique de l'Université d'Orléans. Et bien donc, on a, dans une précédente émission, parlé de l'enseignement secondaire avec le représentant de la FSU. Et bien, avec toi, nous allons parler de l'enseignement supérieur. Donc, tu es enseignant-chercheur. On va d'abord parler de l'aspect recherche et ensuite on parlera de l'aspect enseignement qui a été fortement perturbé depuis un an. Alors voilà, en quoi consiste la recherche quand on est enseignant-chercheur en université ?
Tu me prends un peu de cours là. Je voulais parler du financement de l'université et de la recherche.
Ouais.
Et notamment la situation de nos jours, enfin en ce moment. Et donc, il faut savoir que en fait, depuis quelques années, en fait, le financement de l'enseignement supérieur et de la recherche, il tend à diminuer. Mais c'est pas quelque chose qui apparaît de manière très très apparente. C'est quelque chose qui apparaît plutôt de manière insidieuse, parce que depuis la LRU.
Loi de
responsabilité des universités.
D'accord.
Donc, ils donnent une indépendance aux universités. Notamment, les universités maintenant doivent gérer leur budget. Eh bien, qu'on observe une diminution des budgets un peu cachée, parce que, en fait, les augmentations des budgets tous les ans pour toutes les universités de France, en fait, ils augmentent légèrement, mais restent en dessous de l'augmentation de l'inflation. Et puis de l'augmentation de la masse salariale qui est due au vieillissement, c'est-à-dire aux avancements de tous les salariés.
C'était l'effet, ouais. L'effet d'ancienneté, tout simplement.
Oui, quoi. C'est ça, tout simplement. Et donc en fait, si on tient compte de ça, en fait, le budget des universités, il diminue. Si on tient compte de ces augmentations de besoins. Et donc en fait, dans ce contexte de LRU, en fait, cette diminution du budget, en fait, ça tend à presser budgétairement les universités qui sont obligées de prendre des mesures un peu
qui sont obligées de prendre des mesures à la ceinture quoi
oui,
et en quoi ça consiste c'est
eh bien c'est ben souvent c'est ce qu'on appelle gel des postes les départs en retraite ne sont pas remplacés tout de suite
ouais.
On place des personnels temporaires
ouais.
Mais c'est quelque chose qui peut pas être fait je pense sur la durée. Parce que c'est un glissement, on n'arrête pas de recruter avec du délai, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas boucher, en fait.
Si oui,
on
continue sauf comme ça. Que je présume que ces enseignants recrutés à titre temporaire, donc ça peut être, je ne sais pas, contractuel, ou je ne sais pas comment on appelle ça, c'est des gens qui coûtent moins cher, quand même.
Oui, oui, effectivement. Bon. C'est aussi, en fait, quelque chose qu'on observe au niveau des universités, c'est qu'il y a de plus en plus de contractuels. La part des titulaires tend à diminuer, remplacée par des contractuels.
Oui, enfin, ça, c'est dans toutes les administrations, c'est partout pareil. C'est une façon de contourner le statut de la fonction publique.
Voilà, en effet. Et, et ce que je trouve qui est un peu pervers, c'est qu'en fait, c'est pas l'État directement qui le demande, il l'oblige à le faire de manière indirecte par le resserrement des budgets. Et après, donc ça c'est sur l'aspect général du fonctionnement des universités. Et après, plus sur les aspects recherche, en fait, le fonctionnement des universités, c'est, enfin, de toute la recherche maintenant, c'est de plus en plus par projet. Donc c'est, il n'y a pratiquement plus, enfin, on a plus de budget récurrent pour faire de la recherche. Si on veut avoir des sous pour faire de la recherche, maintenant, il faut forcément passer par des projets.
Bon, c'est-à-dire qu'avant, un chercheur pouvait, il avait un certain budget et il pouvait, d'une certaine façon, être assez libre des recherches qu'il allait mener. Alors que maintenant, il faut avoir un projet pour avoir des sous.
Voilà. Et donc c'est
on
ça.
On pourrait dire que c'est pas mal, finalement, en disant comme ça, l'argent public est bien géré. Mais ça a peut-être des effets pervers.
Oui, vu le niveau que ça atteint, ça a quand même des effets pervers. C'est que, par exemple, les projets de l'ANR, l'Agence Nationale de la Recherche, ils sont assez compétitifs. C'est-à-dire qu'il faut à peu près, donc de nos jours, il faut à peu près déposer 6 projets pour en avoir un d'accepté, en moyenne. Alors qu'au début, c'était 4 pour en obtenir un. Et c'est même descendu à 10 projets déposés pour en avoir un. Donc on voit que en fait les chercheurs passent beaucoup de temps dans le montage de ces projets-là, qui ne sont souvent pas acceptés, et donc c'est un peu du temps perdu.
En fait, on passe beaucoup de temps à monter des projets et pendant ce temps-là, on fait pas de recherche, quoi.
Voilà, c'est ça.
Oui, donc c'est finalement pas aussi efficace que ça paraîtrait au premier abord.
Et puis il y a un autre effet aussi, c'est que ces projets, généralement, ils sont pour des durées de 2-3 ans. Et donc, des fois, quand il y a des domaines de recherche où les recherches portent sur plus d'années, et donc là, du coup, au bout de 2-3 ans, des fois, un domaine de recherche n'est plus financé parce qu'il n'y a plus de projet accepté, et on est obligé de faire autre chose.
Oui, mais la recherche fondamentale, justement, la recherche qui ne sans application immédiate, finalement, ça peut, parfois c'est quelque chose qui peut prendre des années et des années sans rien donner a priori, et puis après il y a quelque chose qui apparaît. Oui. Donc ce genre de choses, est-ce que ça devient, si je comprends bien, beaucoup plus difficile?
Oui, en effet. Sauf quand on est très bon. Sauf quand on est très bon, où là on arrive à obtenir des financements, mais sinon pour la majorité des chercheurs, c'est plus difficile.
Il n'y a pas aussi un problème maintenant en ce qui concerne les publications, enfin on en parle beaucoup du fait que c'est comme le disent les Américains, publish or perish.
Oui, effectivement.
Tu publies ou tu meurs, quoi.
Effectivement, on a une assez grosse pression pour la publication. Qui est nécessaire si on veut, en tant qu'individu, avancer dans sa carrière. Et puis aussi au niveau des institutions, des laboratoires, on est évalué en nombre total de publications. Et donc ça a des effets pervers, parce que c'est un critère qui devient omniprésent, et il y a des effets pervers sur la qualité de la recherche. Parce que, en fait, il est beaucoup plus facile pour réussir, pour les chercheurs, donc déjà pour obtenir un poste, de privilégier la quantité de publications plutôt que la qualité. Et c'est-à-dire que dans les comités de sélection pour recruter quelqu'un, généralement on va se contenter de compter le nombre de publications, de regarder des fois si elles sont dans des revues qui sont fortement cotées ou pas, mais c'est surtout le nombre qui compte. Et généralement, on ne lit pas les papiers, ça prend trop de temps. Donc on ne vérifie pas la qualité du travail, on vérifie juste le nombre. Et donc ça a une tendance, il y a des gens qui travaillent là-dessus, c'est une tendance qui s'observe. Par exemple, dans les domaines de recherche qui sont basés sur des statistiques, ils se rendent compte qu'en fait, il y a une assez forte proportion de résultats de recherche qui ne sont pas reproductibles.
Oui, alors que l'un des critères justement de la validité scientifique, c'est justement que le résultat est reproductible, que voilà. le travail qu'a fait le chercheur est reproductible par d'autres.
Oui, oui, oui. Et donc en fait, cet encouragement à publier beaucoup tend sans que ça soit fait de manière consciente. Hein. Les chercheurs tendent à, à négliger la qualité du travail et donc à vérifier que le résultat soit bien correct ou les études statistiques soient faites de manière très rigoureuse. Et donc ça tend à avoir des résultats qui ne sont pas reproductibles, c'est-à-dire qui sont faux, du coup.
Ouais. Ou en tout cas, on ne sait pas ce qu'ils valent, en tout cas.
Voilà, c'est ça.
Ouais. Bon. Alors, voilà un petit peu... Il n'y a pas qu'en France, hein, ça, je crois que c'est vraiment au niveau mondial.
Oui, ça, c'est au niveau mondial, oui.
C'est pas du tout le cas de la France, seulement le cas de la France. Hein. Oui. Donc, maintenant, on va peut-être aborder la deuxième... En fait, il y a aussi un autre aspect, c'est que les universités sont au niveau mondial en compétition, en quelque sorte, les unes vis-à-vis des autres, avec ce fameux classement de Shanghai. Alors, qu'est-ce que c'est, ce classement ?
C'est une université chinoise à Shanghai qui classe, selon certains critères, toutes les universités du monde. Donc, les aspects sur des critères de quantité de publication, beaucoup. Et sur les aspects aussi, nombre de récompenses, par exemple les prix Nobel et les médailles Fields.
Et, les médailles Fields, c'est l'équivalent du prix Nobel en mathématiques.
Hein. Voilà, c'est ça. Et donc, il y a un classement mondial qui est fait. Et en fait, ce classement, il est assez discutable quand même. Mais par contre, quand même, il est beaucoup relayé dans le média. Je pense que beaucoup de monde en a entendu parler. Et ce classement-là, en fait... Il tend, toutes les universités dans le monde tendent à vouloir monter dans ce classement. Et pour monter dans ce classement, la tendance qu'on voit en France, c'est que on tend à vouloir faire des grosses structures, c'est-à-dire à fusionner des universités, des établissements, pour qu'ils atteignent une taille critique et donc le nombre de publications soit suffisant pour rentrer dans le classement. Ce qui, quelque part, derrière, ne fait pas qu'il y ait plus de recherche au niveau national, ou de meilleure qualité, ou les étudiants mieux formés, ça n'a aucun effet là-dessus, c'est juste qu'on devient visible au niveau mondial.
Ouais, donc purement artificiel.
Voilà, donc c'est en fait les critères qui dictent la politique, et c'est sans qu'il y ait vraiment d'effet bénéfique, en fait, au final.
Oui, d'accord, bon...
Je leur cite, maintenant, ils se vantent d'être les premiers au niveau mathématique, au niveau mondial, grâce à ce regroupement. Et puis, ils sont la première université, ils affichent, nous sommes la première université française dans ce classement. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment. Ça a été fait pour ça.
Oui, donc on a rajouté plusieurs morceaux, et puis effectivement, ça fait un plus gros morceau, et cocorico, on est les meilleurs. Voilà. D'accord. Alors qu'on était aussi bon avant, mais ça se voyait pas.
Voilà, c'est ça, c'est tout. Et puis, oui, cet aspect-là aussi, il apparaît aussi dans d'autres, à plusieurs niveaux, au niveau de la recherche. Hein. Notamment, on voit aussi une tendance au regroupement des labos. Avant, on avait beaucoup de petits labos. Et au niveau des laboratoires, il tend y a aussi à avoir des regroupements pour qu'on soit plus gros et plus visible. Donc c'est, voilà. Et ça pourrait être au prix d'une gestion... plus compliqué, plus on est gros et plus c'est difficile à gérer, je pense.
Ouais. Bon, nous allons donc maintenant voir l'autre aspect de ton travail, hein, c'est l'enseignement. Et alors, ça a été quand même fortement perturbé depuis un an. Alors,
oui, en effet. Ouais.
Comment ça peut se traduire? Comment est-ce que tu vois ça au niveau de tes étudiants?
Eh bien, on est obligé de faire pas mal de cours à distance. Donc derrière des écrans, ce qui n'est pas forcément facile, plus fatigant. Et puis nous, en tant que prof, on se retrouve à parler devant un écran noir, parce que les étudiants ne mettent pas leur caméra. On a beaucoup d'étudiants en face de nous, ils ne peuvent pas mettre leur caméra. Donc en fait, on parle devant un écran noir, on n'a aucun retour. Alors que quand on est face à des étudiants, on perçoit, tiens, ils sont un peu distraits, on voit qu'on les perd.
Toute une interaction qui se passe quand on est en face des gens et que, évidemment, face à un écran, on ne voit pas forcément.
Oui,
donc on perd en efficacité, finalement.
Ouais. Et puis,
qu'est-ce que ça doit être ennuyeux et pour les uns et pour les autres à travailler devant un écran. Ça, c'est...
Oui, c'est pas facile. Après, moi, la formation où je suis, j'ai quand même la chance c'est une formation technique et donc on a réussi à avoir des dérogations pour les travaux pratiques. Donc on voit encore pas mal les étudiants.
Ouais.
Donc je pense que dans notre formation, les sauve quand même. Ils gardent quand même le contact avec leurs copains de classe. Et il y a une forme d'interaction sociale qui est encore là. Et donc, par contre, je pense aux formations qui elles, n'ont pas de, pratiquement pas de, de partie pratique. Et je pense aux étudiants, de, par exemple, étrangers, qui n'ont pas pu rentrer chez eux, qui restent dans leur chambre universitaire depuis, depuis plusieurs mois, et qui ne voient presque plus personne. Là, ça doit être vraiment difficile.
Oui, et puis on en parle effectivement de la déprime, avec des, même des fois des tendances suicidaires. Quoi. C'est, ça peut être très très grave pour certains d'entre eux. Sans même parler des problèmes matériels, on en avait parlé un petit peu dans la dernière émission, parce qu'il y en a certains qui n'ont plus de petit boulot, qui n'ont plus rien, et il y en a qui sont dans de très très graves difficultés financières.
Quoi. Oui, il y a ça aussi. Oui.
Alors, il y en a beaucoup qui disent, on en avait parlé avec Barbara, c'est dans le compte-rendu d'un papier de Barbara Stiegler dans la dernière émission, il semble que cette volonté de faire de l'enseignement à distance existait déjà avant l'épidémie, et ça a été renforcé par l'épidémie, et on a l'impression qu'ils espèrent bien que ça va continuer, ou au moins, peut-être pas autant, mais enfin que ça va continuer quand même après. Donc que l'enseignement à distance deviendra une des modalités d'enseignement à l'université.
Enfin, peut-être qu'il y a cette volonté-là, mais j'espère qu'ils se seront rendus compte que c'est pas si efficace que ça. Parce que je pense qu'on transmet quand même moins de savoir à distance. Voilà. C'est compensé par le fait qu'on soit plus indulgent vis-à-vis des étudiants, compte tenu de la situation, mais... J'espère qu'ils se seront rendus compte que c'est pas vraiment une bonne situation d'enseignement.
Ouais. Donc oui, on parle beaucoup de l'accélération du numérique, du distanciel, etc. Puis on s'aperçoit maintenant des limites, que ce soit le télétravail dans les entreprises ou que ce soit, comme tu le dis, à l'université.
Ouais.
Bon, eh bien, écoute, merci Sylvain, et puis à une prochaine fois sûrement.
Oui, merci, au revoir.
C'est un bulletin météo sur un monde en mutation. Quotidien nuageux avec risque d'orage. Une époque embrumée à forte perturbation. Situation trop inégale impliquant des dommages. Le temps est très mauvais sur les trois quarts sud de la planète. Si vous prenez la vie, naissez plutôt au nord. Car les écarts se creusent, la carte est claire et nette. C'est un climat dangereux, il nous déshonore. Un vent frais de changement pourrait renouveler l'air. Éviter les tempêtes sur l'avenir des enfants. Dégager les consciences d'un brouillard ordinaire. Remettre le baromètre sur un futur plus confiant. Sous cette pluie de contraste, nous ne sommes les otages que d'un silence cruel qui nous rend solitaires. Nous aurons le même soleil à force de partage, et dès lors qu'il réchauffe nos instincts solidaires. Depuis l'aube, les hommes ont trouvé d'innombrables réponses, mais de toute évidence, pas toujours aux bonnes questions. Quand progrès et dérive s'accordent et nous enfoncent dans un chacun pour soi stoppant notre ascension. Et puisque le monde est devenu un village, on ne peut plus ignorer nos voisins, il est l'heure de créer un dialogue et de prendre un virage où on tissera des liens qui prouveront nos valeurs. C'est un bulletin météo sur un monde un peu fou, mais l'homme peut décider du temps qu'il fera demain. Des éclaircies sont possibles sous un ciel moins flou, si la priorité revient à l'être humain.
Vous êtes sur Radio Résonance 96.9 et vous écoutez l'émission mensuelle d'Attaque 18. Alors, André, qu'as-tu retenu de tes lectures ce mois-ci ?
Eh bien, notre compte-rendu de lecture sera un peu différent cette fois-ci, puisque nous parlerons de trois livres du même auteur, Didier Fassin. On dira aussi quelques mots du dernier numéro du journal Le Fakir. Alors que de nombreux cas de violences policières ont été dénoncés ces derniers mois, alors que les réunions Place Beauvau au ministère de l'Intérieur du Beauvau de la Sécurité prétendent améliorer les relations de la police et de la population, il nous a paru opportun de rendre compte des travaux de cet anthropologue qui vient d'intégrer le Collège de France après avoir travaillé comme directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et comme professeur à la prestigieuse université de Princeton aux États-Unis. Il a un parcours riche mais atypique. Il a commencé comme médecin, puis, à la suite de séjours dans divers pays du Sud, il a bifurqué vers l'anthropologie de la santé, en particulier sur le sida en Afrique. Puis, il est allé vers la justice et les prisons, avec entre autres livres « L'ombre du monde, une anthropologie de la condition carcérale ». C'est dans ce cadre qu'entre 2005 et 2006, il a partagé pendant 15 mois le quotidien d'une brigade anticriminalité, une BAC, dans une ville de la banlieue parisienne. Et il en a tiré un livre, « La force de l'ordre », paru en 2011 aux éditions du Seuil. Il aurait bien voulu continuer son travail au sein de la police, mais ça n'a plus été possible. Pour ça qu'il a publié ce livre en 2011 et non pas juste après ses travaux. À partir de ce livre, Frédéric de Bomy et le dessinateur Jake Reynal ont publié en octobre dernier une bande dessinée. Elle met en image quelques-unes des interventions auxquelles Didier Fassin a assisté. Si on compare les deux livres, on voit que la BD résume bien et suit souvent au mot près ce qui est dans le livre de l'anthropologue. S'y étale sans gêne le mépris, le racisme, les vexations envers une population bien précise, les jeunes des cités, la plupart du temps d'origine immigrée. Beaucoup de policiers désapprouvent ces actes, qui sont parfois illégaux, mais s'ils les dénoncent, ils sont rarement suivis par la justice et ils seront de toute façon mis à l'écart par leurs collègues et souvent sanctionnés par leur hiérarchie. Il a pu constater, dans le commissariat dont dépendait la BAC qui l'accompagnait, que les idées lepénistes s'affichaient au sens propre sur les casiers des vestiaires et même sur les murs. Ce qu'a confirmé un sondage au moment des élections régionales, indiquant que plus de la moitié des forces de l'ordre avaient voté Front National. Depuis la parution du livre en 2011, il y a eu les attentats, l'état d'urgence et plusieurs lois renforçant les prérogatives de la police, l'extension des mesures de contrôle et de répression aux migrants, aux réfugiés et à ceux qui leur portent assistance. Le mouvement des Gilets jaunes a montré qu'elle réprimait désormais des gens usant de leur droit constitutionnel de manifester et qu'elle les réprimait avec de nouvelles armes, dites non létales, c'est-à-dire des armes qui ne tuent pas mais provoquent de graves blessures et des mutilations vous rendant handicapé à vie. À la fin de la BD, 4 pages rendent compte de cette évolution inquiétante et inadmissible. Il y a environ un an, Didier Fassin a publié un autre livre à propos d'un fait divers tragique. Un Rome en cavale, qui se cache chez ses parents, est abattu par des hommes du GIGN. Contacté par le collectif de soutien à la famille, qui conteste la version des gendarmes invoquant la légitime défense, il a accès au dossier qu'il réétudie en accordant, je cite, « une attention égale aux paroles de toutes les personnes concernées ». Fin de citation. Il relate de manière neutre les déclarations du père, de la mère, de la sœur, des deux gendarmes, ainsi que du procureur. Il met en évidence les contradictions dans les témoignages des gendarmes et entre ces témoignages et le rapport d'autopsie. Il montre que même si les gendarmes, auteurs des tirs, ont été mis quelques heures en garde à vue, le procureur et la juge d'instruction ont tenu pour vrai leur version des faits, ce qui a abouti à un non-lieu. Mais en admettant que la victime est, comme l'ont déclaré les gendarmes, effectivement menacée d'un couteau, les 5 hommes du GIGN, casqués, équipés d'un gilet pare-balles, est-il admissible que 8 balles aient été tirées, dont 5 l'ont touchée, une ayant atteint le cœur? Ces livres ne sont qu'un élément de plus qui nous montre que depuis longtemps, on met en place, très progressivement, les cadres juridiques, les conditionnements psychologiques et les moyens techniques d'un État policier. Alors, on attend toujours avec impatience la sortie du Fakir, le magazine trimestriel de François Ruffin et de son équipe. Et ce numéro est un excellent cru. On ne peut pas en donner un compte-rendu trop long, on n'a pas le temps. Mais enfin, il nous montre à partir de quelques livres comment le capitalisme est en train de tout faire pour se débarrasser du peu de démocratie qui nous reste. Il dénonce les hauts fonctionnaires et les hommes politiques recrutés par les banques ou les multinationales en raison de leur carnet d'adresses et de leur influence. Et il cite des noms, beaucoup de noms. Et enfin, comme toujours dans ce journal, cette mise en lumière des invisibles, cette attention à tous ces gens d'en bas dont Macron dit qu'ils ne sont rien, infirmières, aides-soignantes, etc. Bon, c'est un journal qui redonne la pêche. Lisez-le, il en vaut la peine.
Imaginons que nous vivions une démocratie policière.
T'exagères ?
Ouais.
Qu'il y ait des caméras partout et de la biométrie dans l'air.
T'exagères.
Qu'il y ait un flic à chaque coin de rue, au cas où on soit trop têtu.
Pour nous protéger de nous-mêmes, parce qu'au bout du compte, on nous aime.
Ah, quand même.
Eh, hey, monsieur l'agent.
Mademoiselle.
On fait que chanter le passé avec des airs de barricade. Dans le genre, faut pas oublier, se souvenir des camarades. Dans le style un peu culturel, rien à redire, c'est artistique.
En plus, les comédiennes sont belles.
Eh, hey, y a un homme derrière chaque flic.
Imaginons qu'il y ait parmi nous des flics en civil, des espions qui viennent pour nous écouter et pour voir comment ça répond quand on chante. Quand on chante. La révolution. La révolution.
On pourrait, pourquoi se gêner, tomber dans la provocation, de se faire arrêter en entonnant « Casse-toi, pauvre con !» Et ce serait nous fourvoyer. C'est vrai, il manque d'éducation, mais on a plus à lui reprocher que quelques gesticulations.
Imaginons qu'il y ait parmi nous des flics en civil, des espions qui viennent pour nous écouter et pour voir comment ça répond quand on chante. Quand on chante. La révolution.
Devenir chasseur d'immigrés pour défendre la République. On pourrait aussi s'étonner des sales besognes que font les flics. Détestés dans toutes les cités, méprisés dans les quartiers chics. C'est une drôle de destinée si c'est glamour.
C'est pathétique.
Imaginons qu'il y ait parmi nous des flics en civil, des espions qui viennent pour nous écouter et pour voir comment ça répond quand on chante. Quand on chante.
Les exciter,
évoquer le squat de Montreuil,
les lycéens qu'ils ont matraqués,
et Joachim qui perd un œil,
oh, le taser qui peut tuer.
Imaginons qu'il y ait parmi nous des flics en civil, des espions qui viennent pour nous écouter et pour voir comment ça répond quand on chante. Quand on chante.
La situation difficile de prévoir l'avenir. Après tout, ce n'est qu'une chanson. On est là pour vous divertir.
Quoi qu'il en soit, ce qu'on espère, mais ça va pas vous étonner, c'est d'avoir beaucoup mieux à faire que de chanter. La révolution. La révolution.
Alors, c'est l'heure de l'agenda.
Oui, pas grand-chose hein, sur notre agenda ce mois-ci, parce que l'épidémie et le couvre-feu ralentissent fortement les actions militantes. Il faut dire quand même quelques mots de l'antidote, hein, le bistrot militant au 88 rue d'Oron. Alors, comme tous les bistrots, il est fermé, évidemment, mais enfin, il est quand même ouvert du mardi au samedi de 16h à 18h, mais on n'y boit pas, bien sûr. On peut juste y acheter ou y emprunter des livres. Alors justement, la fermeture des bars, suite à ce deuxième confinement, risque de mettre fin à l'aventure de l'Antidote. Hein. C'est pourquoi bah, il fait appel à vos dons pour continuer à exister et repartir de plus belle à la fin du confinement. Vous pouvez, vos dons, vous pouvez les disposer directement ou les envoyer au 88 rue d'Oron. Il y a aussi une adresse internet que vous pouvez trouver sur le site de l'Antidote ou de Qui s'y colle. D'autre part, le salon de l'agriculture ayant été annulé, la Confédération paysanne organise en quelque sorte son salon ce week-end 27 et 28 février. C'est une journée porte ouverte dans des fermes dans toute la France. Cette opération a pour but de montrer la réalité du métier. Comme ils disent, salon 100% paysan certifié sans greenwashing. Alors dans le Cher, on a quatre fermes. L'Escargot-sur-Loire à la Chapelle-Molinard, la ferme de Sardonnay à Louis, le jardin du Grand Chêne à Ardennay, l'écu de Fontclin à Ferdine. Mais alors, attention, ils ne sont pas ouverts tous de la même façon. L'Escargot-sur-Loire est ouvert seulement dimanche 28 de 10h à 17h. La ferme de Sardonnay à Louis est ouverte samedi 27 et dimanche 28 de 15h à 17h30. Les jardins du Grand Chêne à Ardennay sont ouverts seulement dimanche 28 de 10h à 12h et de 14h à 17h30. Et l'écu de Fontclin à Faverdine est seulement ouvert, il est ouvert samedi et dimanche de 14h à 17h30.
Voilà, c'est la fin de notre émission. Nous vous retrouvons le vendredi 26 mars entre 18h10 et 19h sur Radio Résonance 96.9.
La présente émission sera rediffusée demain samedi à partir de 14h.
Vous pouvez aussi la réécouter en balado-diffusion sur le site d'Attaque 18 ou celui de Radio Résonance.
Vous pouvez de même réagir en allant sur notre site attaque18.org. Si vous voulez écrire, c'est attaque18, maison des associations, 28 rue Gambon, Bourges.
Nous avons écouté au cours de cette émission Idir, en duo d'ailleurs avec Akhenaton, un marche sur Jérusalem, Grand Corps Malade avec un bulletin météo, et puis Joli Môme, la démocratie policière.
Au revoir à toutes et à tous, et restez à l'écoute de Radio Résonance.
Au revoir. Au revoir.